quand même un travail assez complexe. Je vais essayer de vous faire partager avec une dizaine de diapos, c'est tout, tout ce qu'on a envie de savoir sur la façon dont le chien peut être révélateur et médiateur de son environnement humain. Hein, pour la conférence ici, je voulais vous montrer comment j'utilisais la méthode d'évaluation écologique, mais surtout vous montrer qu'est-ce qu'on pouvait aussi faire avec le chien. Voilà. Donc, voilà les photos. Alors là, rapidement, l'évolution de la relation homme-chien, je vais parler juste de la relation récente, où on sait qu'a priori, les relations avec le chien sont considérées maintenant comme favorables, en tout cas dans nos sociétés européennes. Le chien est désormais considéré comme un membre de la famille. Sa cohabitation avec l'humain est devenue particulière. On voit bien la photo du petit chien dans le petit truc roulant. Hein, c'est quand même particulier ce qu'on peut trouver maintenant avec les chiens. Il y a de nombreux et différents ajustements qui existent entre le chien et son environnement matériel et social. Et il y a de belles histoires, souvent, hein, on en parle souvent, mais aussi il y a pas mal de difficultés d'ajustement. Et moi, en tant que vétérinaire, c'était ça que j'étais confrontée. C'est pourquoi je suis venue chercher des renseignements au Québec pour voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer les conditions d'évaluation. Et les difficultés d'ajustement, de compréhension et d'organisation entre les humains et les chiens, puisque finalement, on voit bien depuis déjà 2 jours la difficulté de savoir qui est animal, qui est humain, comment est-ce qu'on fait. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement plusieurs années de travail, mais ça a commencé par la présentation du modèle écologique de Bronfenbrenner que M. Robert Posé m'a fait connaître. Et l'intérêt, en fait, de ce modèle, déjà, la représentation graphique, c'était la niche écologique. Donc, je me suis dit, c'est super. C'est pour moi, ça. Parce que je m'occupais des chiens particulièrement. Et le principe, c'est qu'il y a plusieurs écosystèmes qui sont imbriqués les uns dans les autres. Onto, micro, méso, exo, macro-système. Tout ça, c'est peut-être de l'arabe, mais je vous dis rapidement ce que j'en ai fait. L'onto-système, c'est ce qui correspond aux chiens, pour moi. Le microsystème, c'est ce qui correspond à l'environnement humain proche du chien, c'est-à-dire la famille, le propriétaire. L'espace disponible également, c'est aussi l'environnement matériel dans quoi le chien habite avec sa famille. Et le mésosystème, c'est tout ce qui est plus périphérique à la famille. Ça peut être la famille élargie, les pensions qui gardent le chien, le vétérinaire, l'éducateur, ceux qui peuvent connaître le chien, qui sont en interaction éventuelle avec lui, mais pas permanent. L'exosystème, c'est celui qui est plus périphérique encore à la famille, mais qui va intervenir pour influencer la famille, pas le chien, directement. Par exemple, le travail du propriétaire du chien, qui va déterminer des heures d'absence, qui sont souvent longues pour le chien, et donc qui est d'une grande importance pour son comportement. Et puis le macrosystème, qui est un système périphérique où il y a les idées, les croyances, toutes les lectures que les gens peuvent avoir. Voilà. Et le plus important dans l'histoire, c'est le chronosystème qui, lui, va traverser l'ensemble de tous les autres systèmes. C'est le temps qui va montrer toutes les évolutions. Alors, on voit rapidement sur la photo suivante où j'ai voulu montrer une diversité d'environnements que le chien rencontre avec l'humain. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette méthode, elle va considérer les écosystèmes en interrelation. Il faudra qu'on étudie chaque fois comment ils entrent en relation entre eux et surtout comment ça évolue dans l'espace et dans le temps. Alors là, c'est une représentation graphique finale de la thèse où, en fait, là, il s'agit de mettre en 2 dimensions, parce qu'on n'en a que 2 dans notre tête d'humain, une carte conceptuelle qui permet, en fait, de montrer le panorama des différentes situations à examiner. Donc, ce travail-là, il a été fait à partir d'une recension des écrits sur l'ensemble des comportements du chien en ajustement avec l'environnement humain. Et on retrouve les différents écosystèmes. Ils sont un peu positionnés différemment, mais en gros, tout ce qui est en violet là-haut, c'est tout ce qui est comportement du chien. Ce qui est en bleu, en bas, c'est les comportements et l'espace disponible, tout ce qui se passe avec la famille. Ce qui est au milieu, c'est tout ce qui concerne le temps. Et c'est ça le plus important à comprendre, c'est les différents ajustements à partir d'un comportement qui, a priori, est normal quand le chien naît. Et au fur et à mesure que l'environnement humain va l'influencer, on va voir les difficultés d'ajustement ou les points favorables qui vont s'équilibrer et qui vont rendre la situation stable. Voilà. Et puis, vous avez les systèmes périphériques qui vont influencer. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette façon de regarder les choses est devenue une méthode au fur et à mesure du travail que j'ai fait. Cette méthode-là consiste à questionner en fait le propriétaire du chien pour tout ce qui se passe avec le chien. Et à partir de là, chaque composante a un ensemble de questions qui me permet de récupérer les renseignements. Et à partir de là, à la fin de l'entretien, on peut déterminer quelles sont les composantes qui ont été en relation avec les conduites problématiques ou pas. Et c'est les petites étoiles rouges qu'on peut trouver situées, je les situe en fin de l'entretien. Et les points roses qui sont les points favorables, qui sont les potentiels que le chien ou la famille va apporter à la situation. Et puis les ronds jaunes, c'est ceux que j'utilise pour montrer au propriétaire ou à la famille que là où on va pouvoir intervenir en éducation, parce que le travail que j'ai fait, c'est en sciences d'éducation. Donc l'objectif, il est d'aller vers des solutions. Alors, on va revenir au sujet de la conférence, parce que le chien, quand même, c'est un animal tellement particulier que sans rien faire, il peut tout faire. Et j'aime bien ces photos-là, parce que ça représente bien qu'en faisant rien, finalement, il est toujours intéressant. Alors, je vais essayer, pour répondre au thème de la conférence, de montrer deux exemples. Un où le chien va être révélateur de l'environnement humain. Alors, il y aura deux situations extrêmes que je vais vous montrer. Et puis, un autre exemple qui concernera le côté médiateur ensuite. Alors, donc là, le chien révélateur de son environnement humain, j'ai choisi l'éducation familiale. On en a un petit peu parlé cet après-midi. Mais là, il y a une autre façon de la regarder. C'est-à-dire que c'est plus dans le sens de l'évaluation écologique que je vais vous la montrer. Donc, pour reprendre l'exemple, j'ai fait une situation extrême ou un parcours éducatif favorable. Et tout à l'heure, je vous montrerai ce qui est défavorable. Évidemment, au milieu de tout ça, vous avez toutes sortes de situations intermédiaires qui existent, qui sont très variées. Hein. Mais en gros, si on veut avoir un parcours éducatif favorable pour l'éducation familiale avec l'enfant, eh bien, le chien, qui est dans notre système, s'il a une socialisation bienveillante, sans confusion d'espèces, c'est ce qu'on a parlé déjà depuis un moment, hein, dans la relation interspécifique, on peut faire les choses sans confondre les espèces, mais c'est quand même une préparation qu'il faut faire quand l'animal vit auprès de l'humain au quotidien. Hein, c'est vraiment une particularité qu'il faut mettre en évidence. La hiérarchisation, puisque le chien peut vivre dans un système qui se hiérarchise, mais elle peut ne se faire sans recherche de soumission de la part de l'humain, sans violence, de façon indirecte. Et l'enfant, du coup, peut participer à ça à partir du moment où on se comporte de façon respectueuse. On a plusieurs exemples là. L'activité du chien non stimulée dans des jeux inutiles et surtout une activité qui respecte les besoins essentiels du chien, c'est-à-dire la promenade, c'est l'essentiel du chien. Et le microsystème, c'est les systèmes de la famille. J'ai repris juste un exemple, les pratiques éducatives cohérentes, capables de mettre en scène les contraintes de la vie des humains et de façon positive. Les conséquences sont très importantes parce qu'on a un bien-être réciproque, on a une cohérence de l'éducation dans le temps, donc ça persiste, c'est fiable. On a une relation avec le chien de la part des humains et des enfants respectueuse, harmonieuse. Et puis on a un apprentissage pour les enfants aussi important que pour les parents d'ailleurs, de la patience, de l'effort récompensé, à contrario de ce qu'on peut trouver dans d'autres situations avec l'envie, l'agressivité, la frustration. Alors il y a quelques images un peu intéressantes là, où on voit la vie des chiens d'aujourd'hui qui sont très variés, hein, vous voyez. Mais en général, là, tout cela, ça s'est bien passé. Je vais vous montrer ce qui ne se passe pas bien. Quand ça ne se passe pas bien, c'est ça qu'il y a. C'est un petit raccourci des illustrations que j'ai fait faire, parce que je n'ai pas l'habitude de créer des situations qui posent problème. Et ça met en évidence les maltraitances qui peuvent être faites. Donc, moi, je vais le repérer. Le chien va être révélateur, puisque rapidement, je vais me rendre compte d'une émotivité anormale chez le chien, avec une peur de l'approche des humains, adultes ou enfants, une peur des contacts, des cris, des peurs de certains mots, qui vont être dits la plupart du temps de façon trop autoritaire ou punitive. On va retrouver des agressivités, des agressions chez les chiens. On va retrouver une cognition particulière avec une mémorisation des maltraitances, des gestes maltraitants, des menaces. Enfin, on va retrouver tout ça dans la compréhension du chien. Et le microsystème, c'est ce qui va être défini par l'attitude des humains particulièrement, des attitudes qui sont souvent non réfléchies, punitives, agressives, menaçantes, des communications paradoxales. Dans les pratiques éducatives, on aura des incohérences, des punitions, la colère, des effets basée sur l'immédiat, une recherche d'obéissance par la soumission, toutes sortes de manœuvres. Les conséquences sont toujours sérieuses parce que du côté humain, et moi je repense aux enfants toujours, qui voient les situations de maltraitance sur le chien, il y a un apprentissage de la maltraitance. Donc le secouage des bébés, c'est un apprentissage similaire au secouage des chiens, qui est conseillé dans beaucoup de cas. Et c'est une catastrophe, parce qu'en fait, ce n'est pas ça qu'il faut apprendre aux enfants. Les escalades conflictuelles, les cris, les dominances, bon bref. Et les conséquences sur le chien sont sérieuses, parce que, en tout cas, moi, je suis confrontée dans les rééducations. C'est assez terrible, parce qu'en fait, le chien agresse non seulement la personne qui l'a éventuellement fait violence sur lui, mais aussi toutes les situations similaires, y compris que les enfants qui n'auraient pas été violents avec le chien. C'est-à-dire l'enfant qui s'approchera, par exemple, du panier du chien, dans la situation où à droite, un enfant s'approchera du panier du chien, on va croire que le chien est dominant, et en fait, c'est pas ça. Le chien, il a mémorisé que la situation était violente et qu'il avait à se défendre. Donc ça reste, c'est des choses qui sont persistantes. Voilà, donc ça, vous voyez en quoi on peut, avec deux extrêmes, révéler une éducation familiale plutôt favorable ou plutôt moins favorable, sachant qu'évidemment, tout n'est pas aussi grave, mais il y a quand même des situations sérieuses. Alors là, je vais vous montrer maintenant l'exemple de médiation animale que je pratique dans un programme qui s'appelle Le Chien Compagnon pour l'insertion, hein, grâce à la Fondation Sommaire. Il faut le dire qu'ils ont vraiment beaucoup aidé en France pour ce programme avec les personnes sans domicile fixe. L'idée, en fait, c'était de garder le même principe de la méthode écologique et d'aller chercher en quoi le chien allait pouvoir être un atout pour la personne qui était en difficulté. Donc ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure sur la médiation animale. Et je vais vous montrer un petit peu en quoi la méthode écologique peut servir aussi là. Alors, dans le constat défavorable qu'on peut trouver régulièrement avec les personnes sans domicile fixe, hein, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être devin pour connaître tout ce qui peut se trouver. Quand on est travailleur social, on voit tout ça. On voit de la négligence, on voit de la maltraitance, on voit chez les personnes des ruptures sociales, des socialisations, des contraintes qui sont vécues comme insupportables par la personne, hein, des agressions, anxiété, dépression, des suites d'abandon, des difficultés, voire des incapacités à être insérées dans une société humaine telle qu'elle est actuellement. Et le chien, là-dedans, il est avec le propriétaire, hein, puisque les propriétaires prennent des chiens et ils ne demandent pas l'avis du travailleur social. Hein. Et donc, la personne peut entraîner vraiment le chien dans la galère. Et moi, je suis vétérinaire, donc je vois le chien partir avec la personne dans des situations vraiment terribles. Et j'avais une petite rébellion par rapport à ça. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on puisse rien faire. Donc, je me suis lancée. J'ai dit, on y va. Et les résultats sont là. Évidemment, ils ne sont pas faciles à avoir toujours. On n'a pas toujours les résultats immédiats, mais on les a souvent. Les chiens de personnes SDF sont souvent des chiens qui ont des grosses qualités sociales. Ce sont des chiens qui ont des socialisations diversifiées. Peu de confusion d'espèces, parce qu'ils vivent souvent avec d'autres chiens, d'autres humains. Donc c'est une socialisation plutôt favorable. Une très grosse adaptabilité. Donc on peut compter sur eux pour s'adapter à toutes sortes de choses. Ils ont un attachement pour leur propriétaire qui est d'une fidélité incroyable. Et surtout, ça, c'est essentiel. Il faut le garder. Il faut le garder comme potentiel favorable dans la rééducation de la personne. C'est très, très important parce que c'est ça qui permet, en fait, de garder le contact avec la personne. Et ces chiens-là, ils ont une capacité cognitive très importante. Ils comprennent tout, peut-être trop parfois. Il faut que l'éducateur canin soit au niveau parce que ce sont des chiens qui comprennent très, très vite les choses. Alors, c'est un avantage aussi quand on leur apprend les choses dans le bon sens. C'est un atout énorme. Alors, pour ce qui concerne la personne, c'est elle qu'on va chercher à faire progresser avec le chien. Et donc, j'ai mis les mots « owner » et « caregiver » parce que c'est des mots anglais qu'on n'a pas en français. En français, on n'a que « maître », le maître. Alors, j'aime pas trop ce mot parce qu'il a une connotation trop dominante et qui n'aide pas dans la médiation animale. Donc, je considère que le caregiver, c'est bien. Caregiver, c'est celui qui prend soin. Et ça, dans les personnes SDF, en général, quand ils peuvent, ils prennent soin. Et puis, owner, c'est quand même ce qu'ils considèrent le propriétaire. Alors, ils ne sont pas toujours encore tout à fait propriétaires du chien au départ, parce que beaucoup de chiens sont abandonnés avant 2 ans. Et en fait, l'objectif du programme, c'est quand même de leur faire comprendre quel est leur rôle dans la vie du chien et de les amener à comprendre que le chien, il va vivre 13 ans avec eux, en gros. Et donc, le mot honneur, c'est quand même la notion de responsabilisation par rapport à la vie d'un autre. Hein, voilà, donc, on est encore bien dans la médiation animale. Et donc, on va considérer avec le travailleur social, parce que là, c'est un programme que je fais avec les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, où on va considérer les étapes de vie possibles avec la personne, selon ce qui est possible pour elle. On va considérer les espaces disponibles, donc quelle est la qualité du centre d'hébergement, si ça va être un logement collectif, pas collectif, comment est-ce qu'on va faire pour que cette personne sorte de la rue. Et ça, c'est une discussion qu'on fait avec la personne elle-même et avec le travailleur social. On va considérer la dynamique familiale, parce qu'il faut savoir que les personnes SDF reprennent le chien comme leur famille. C'est à la fois leur frère, leur conjoint, leur enfant, c'est tout en même temps. Et cet animal, du coup, devient sa famille. C'est à tel point que Christophe Blanchard, qui fait aussi un programme avec la Fondation Sommaire, nous parle souvent de la génétique, la généalogie de ces chiens. On connaît, les personnes connaissent la généalogie des chiens sur plusieurs générations. Et puis les pratiques éducatives qui sont souvent très particulières avec les personnes SDF et très variables. Et quand je les mime, ça fait rigoler tout le monde en général. Et là, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Et les travailleurs sociaux qui sont avec moi sur ce programme sont assez étonnés des résultats qu'on peut avoir en très peu de temps grâce aux chiens. Parce qu'il y a une logique des apprentissages que je leur apprends qui est assez, assez étonnante et très intéressante. Tout de suite, ils se mettent dans le concret. Ce n'est pas du dressage, c'est vraiment une capacité que la personne acquiert de comprendre les situations avec le chien et de le faire, et faire progresser son chien rapidement. Et là, y a une responsabilité par rapport au chien qui est étonnante, qui marche vraiment très bien. En 2-3 rendez-vous maximum, on obtient des résultats essentiels, qui sont durables. Hein. Voilà. Après, c'est le travailleur social qui fait son travail. Moi, j'interviens que quand on me demande. Après, c'est le problème de l'humain à gérer. Mais l'animal est vraiment le soutien permanent tous les jours de la personne. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Donc le programme que je fais s'appelle la conduite accompagnée du chien et ça concerne toutes sortes d'actions qui représentent la recherche, la formation et la pratique que j'essaye de mettre en œuvre depuis plusieurs années et que j'espère pouvoir continuer. Voilà, merci.